France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Dans notre série de 7 semaines consacrée aux philosophies asiatiques, voici un épisode sur les grands courants de pensée qui ont émergé dans l'histoire de la Chine. En préparant cette émission avec nos invités de ce matin, l'équipe d'Avec Philosophie a surtout compris qu'il fallait beaucoup de prudence dans l'emploi des mots. Confucianisme, par exemple, semble être une notion complexe, voire obscure parfois, tant la pensée de Confucius, qui a vécu à la charnière des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ, a été utilisée, voire instrumentalisée dans l'histoire chinoise. Sans parler du mot néo-confucianisme, qui apparaît à partir de la dynastie des Song vers le 11e siècle de notre ère, pour se prolonger jusqu'au début du 20e siècle et qui reconstruit souvent, plus qu'il ne décline, la vision du monde de Confucius. Le taoïsme est un autre courant philosophique chinois que nous évoquerons ce matin, et la question se pose de savoir s'il est une sorte d'envers de la philosophie confucéenne ou bien si cette opposition est trop simple. Bref, essayons d'éclairer les choses sans les caricaturer. Nos invités de ce matin n'auront pas de mal, j'en suis sûre, à honorer un tel programme. Bonjour Stéphane Feuillat.
Bonjour, merci de l'invitation.
Je vous en prie, c'est un plaisir. Vous êtes très savant, vous êtes professeur de littérature et de philosophie de la Chine ancienne au sein de l'Université Paris Cité, spécialiste notamment de la période de la dynastie des Song qui ont régné de l'an 960 jusqu'à la deuxième moitié du XIIIe siècle, période de 3 siècles considérée comme une renaissance chinoise. Et bonjour Olivier Boutonnet.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes très fort, sinologue. Docteur en histoire des religions de l'école pratique des hautes études à Paris, vous menez des recherches notamment sur l'histoire du taoïsme et des quêtes intellectuelles et religieuses des lettrés dans la Chine médiévale. En vérité, vos travaux et publications à tous deux sont précisés sur le site de notre émission.
Maître Kung, vous voici à l'entrée de mon état.
10 000 années à vous, Seigneur.
Vos disciples portent un bonnet rond, des cothurnes à bout carré et à leur ceinture des breloques. Est-ce que ces objets ont une signification particulière?
Oui, Seigneur. Le bonnet rond évoque le ciel et les cothurnes carrées la terre. Quant aux breloques, elles rendent toutes les notes de la gamme. Elles représentent l'harmonie que nous souhaitons voir régner sur la Chine. Pauvre empire que déchire en ce moment les rivalités des barons et des ducs.
Cette harmonie règne-t-elle dans les états qui vous ont écouté?
M'ont-ils tous écouté? Au premier honneur, j'incline la tête. Au deuxième, je rentre les épaules. Au troisième, je courbe le dos. Telle est toujours la devise de notre famille, Yen-se. Chacun étant à sa place, le père à la place du père, le fils du fils. Comme le ciel est en haut, la terre en bas. Alors les 4 saisons suivent leur cours. Alors les 10 000 êtres accomplissent leur destin.
S'il s'agit d'éprouver les capacités d'un guerrier, je lui mettrai dans la main des arcs de 20 forces et des flèches de 13 palmes de longueur. Or, je me trouve devant un...
Un érudit, Seigneur, tout au plus. Je n'ai rien inventé, je transmets.
Et en tant qu'érudit, de quoi avez-vous traité?
En particulier des rites et de la musique, Seigneur.
Manière d'introduire pour nous la figure de Confucius, Maître Kung. C'était un extrait d'une pièce de théâtre ainsi nommée, Confucius, de Pham Van Ki, réalisée par Gérard Herzog le 6 février 1958 sur la RTF, avec dans le rôle de Confucius, Roger Blin. Stéphane Feuillat, il naît en 551, Confucius, il meurt en 479. Tout cela est-il maintenant avéré? Qui était-il? Où travaillait-il? Était-il dans les cours royales? Campez-nous un peu le personnage, s'il vous plaît.
Alors, aujourd'hui, en fait, la grande majorité des sinologues considèrent que le personnage est historique. Oui. Même si un courant américain aujourd'hui a tendance à dire que le personnage est inventé, mais au fond on a suffisamment de traces, de textes, et puis il y a une transmission qui s'est faite oralement qui est assez fiable, qui permet en fait de dire qu'il s'agit d'un homme qui a réellement existé et donc qui est issu en fait d'une petite principauté, la principauté de Lu qu'on trouve aussi aujourd'hui qui est intégrée aujourd'hui dans une province chinoise qui s'appelle le Shandong et qui se situe en fait au nord-est de la Chine et qui est issue d'une la petite noblesse de d'une principauté qui est la principauté de Lu dans un espace chinois qui est féodal, donc avec une cour royale et ensuite de très nombreux fiefs qui paient allégeance au roi. Et dans un moment, il naît dans un moment où en fait l'ordre qui s'était mis en place dès 1000 avant Jésus-Christ, aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ, eh bien, se délite complètement et il essaie donc, dans un premier temps, de reconstruire en fait, c'est un ordre qui oui. s'inspire de cet ordre déliquescent, en essayant en fait à la fois de participer au gouvernement dans la principauté qui est la sienne et surtout en mettant en place en fait une réflexion d'ensemble qui est essentiellement tournée vers ce qu'il appelle la voie des hommes.
Oui.
Et on peut dire d'une certaine façon que Confucius est le penseur qui parle pour la première fois en son nom. C'est le premier à dire je dans l'histoire chinoise et c'est par ailleurs moi, je résume souvent cela pour mes étudiants. Je leur dis que c'est celui qui a inventé la morale.
Oui. Alors, si on le définit ainsi, comme vous venez de le faire, alors c'est un philosophe. Ce n'est pas un religieux. Dites-moi d'emblée quelques mots là-dessus. Puisque...
Alors précisément, en fait, c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de la religion, la tient en respect. Mais au double sens du terme, c'est-à-dire qu'il il respecte les cultes qui existent.
Quels sont-ils d'ailleurs?
Alors, ce sont des cultes qui peuvent être soit au souverain d'en haut ou au ciel, oui. Mais aussi aux divinités plus terrestres, les fleuves, les montagnes.
Et pluriel donc.
Pluriel donc, et puis par ailleurs les divinités qui sont ancestrales. Donc,
il respecte, mais c'est autre chose.
Voilà, il respecte, mais il les tient à distance. Hein. Il dit assez constamment, voilà, il faut respecter les rites vis-à-vis de ces divinités, mais il ne se prononce jamais sur l'existence ou non de ces réalités spirituelles. Et il dit qu'il ne, d'une certaine façon, il ne sait pas quoi en dire. Il n'y a rien à en dire, véritablement, de son point de vue. En tout cas, c'est hors de son propos. Donc, il fait une distinction quand même assez nette d'emblée entre le monde invisible sur lequel il ne se prononce pas et le monde des hommes qui, selon lui, doit être organisé selon la vertu qui est celle spécifique aux hommes, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'humanité, la vertu d'humanité.
Alors, Olivier Boutonnat, on va parler du taoïsme qui naît aussi, hein, c'est pas tellement loin sur le plan des dates, mais j'aimerais justement avoir votre avis sur un point qu'a évoqué Stéphane Feuillat, c'est cette atmosphère de chaos, de déliquescence, je crois que vous avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe au moment de ces... De ces périodes royales qu'on appelle le printemps et l'automne, si j'ai bien compris. Et pourquoi y a-t-il tant de nostalgie? Alors pour Confucius, là aussi, si j'ai bien compris, c'est à l'égard des Zhou, la dynastie des Zhou, au 8e siècle, puis encore jusqu'à la fin du 5e. Expliquez-moi un petit peu cette nostalgie et cette déliquescence qui excite cette nostalgie.
Mais d'abord, ces périodes troublées sont des périodes de grande effervescence intellectuelle, très fécondes. Et puis, tous ces penseurs sont aussi, enfin pas tous, mais ceux dont on parle en ce moment, sont aussi traversés par l'idéal de l'âge d'or. Et au fond, Confucius, d'ailleurs, c'est évoqué dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, le dit lui-même, il n'apporte rien de nouveau. Il réchauffe le passé pour comprendre le présent, le nouveau. Et pour lui, ça passe par justement une harmonisation du corps social qui se fonde sur une harmonisation de sa propre personne. On pourrait dire que ça se fonde sur un tripode. Stéphane a parlé de la vertu d'humanité, c'est-à-dire comment vivre en homme digne parmi les hommes. Et ça, ça n'est pas naturel, ça doit s'apprendre. C'est la deuxième vertu cardinale, c'est l'étude, l'apprentissage.
Et les Zhou, par exemple, cette dynastie-là, il y avait de la confiance pour trouver ce que vous dites. Marchait bien, quoi.
Oui, ça marchait bien, mais dans une vision un peu idéalisée. D'accord. Et mythifiée, a posteriori aussi. Mais oui, ça marchait bien. Et la troisième vertu, c'est précisément le rite, hein, qui est aussi évoqué dans l'extrait, qui permet à chacun de mettre en application donc ce qu'il a appris pour rester à sa juste place. Donc le souverain doit occuper pleinement sa place de souverain, le sujet pleinement sa place de sujet. Et c'est en s'appuyant sur ce tripode-là que précisément on peut-être sortir de cette période troublée pour retrouver une société plus sereine, plus apaisée.
Alors, nous parlerons après du taoïsme, qui lui est plutôt né, si j'ai bien compris, au 4e siècle avant Jésus-Christ.
Le taoïsme.
Ou en tout cas, voilà,
on en reparlera, c'est un peu plus compliqué que ça.
D'accord, oui.
En fait, il existait des textes à cette époque-là, dont les auteurs, eux, ne se sont jamais prétendus taoïstes.
Il y a des racines, c'est ça.
Oui, voilà. En fait, on peut parler de proto-taoïsme. L'expression vient d'Anna Zeidel, qui était une historienne du taoïsme, aujourd'hui disparue, disant qu'en fait, on a une classification des écoles de pensée au début de notre ère, et les historiographes qui ont procédé à cette classification ont établi une école de la voix et ont classé des textes dedans. Mais les auteurs de ces textes, à leur époque, eux, ne s'étaient jamais prétendus taoïstes.
Entendu. Alors restons quand même sur Confucius d'abord. Donc lui, il meurt au 5e siècle, avant Jésus-Christ. Alors, quelle est sa conception de la bonne place de l'individu? D'abord, est-ce la question de la nature ou la question de la société? Ou la question du cosmos en général, comme, alors pardon, j'emploie un mot grec, mais il est vrai qu'au même moment, chez les Grecs, c'est un enjeu, l'individu inséré dans le cosmos. Est-ce qu'il y a une analogie, ou est-ce qu'au contraire, ça nous empêche, en nous référant aux Grecs, de penser à la spécificité de la réflexion de Confucius? À quoi l'individu doit-il s'intégrer, Stéphane Feuillat?
Alors, la première chose qu'il faut dire, je pense, c'est que il n'y a pas véritablement dans les textes qui nous sont parvenus et qui sont censés, en fait, transmettre la parole vivante de Confucius. On ne trouve pas dans ces textes véritablement, en fait, une explicitation de ce que pourrait être la voix de la nature ou du monde, ou du fonctionnement du monde en général. Le propos de Confucius est plus articulé, en fait, ou essentiellement tourné vers ce qu'il appelle la voix des hommes, c'est-à-dire la manière d'organiser de façon la plus harmonieuse la société, et en s'inspirant, en fait, d'un modèle lointain, puisqu'il voit bien que dans la nature, les choses suivent leur cours sans effort. Et ça va servir de modèle à ce que devrait être, en fait, une société humaine. Idéal, c'est-à-dire dans lesquels, en fait, les conflits se défont d'eux-mêmes, tout simplement parce que les choses apparaissent naturelles.
Et que peut-on faire pour améliorer ces processus? Vous avez l'air de dire que c'est naturel, mais Confucius donne-t-il des conseils? Comment s'intègre-t-on mieux à l'ordre du monde et à l'ordre social?
Alors, lui considère tout d'abord, en fait, que l'ordre humain, d'une certaine manière, comme l'ordre naturel, est un ordre hiérarchique. Donc, il y a le ciel est en haut, la terre est en bas, le père est supérieur au fils, le fils est inférieur à son père. Donc, l'ordre qu'il construit, c'est un ordre hiérarchique.
Alors, j'ose à peine poser la question des femmes. Enfin, je la pose quand même, là.
Alors, dans la tradition chinoise ancienne, c'est assez compliqué, mais disons que la femme est toujours attachée à quelqu'un. Elle est attachée à son père, puis ensuite à son époux. Et lorsque l'époux meurt, elle est attachée à son fils. Mais, d'une certaine manière, en fait, ce que veut dire Confucius, c'est que cette hiérarchie, elle doit être pensée de manière assez fine et assez juste. C'est-à-dire que je ne dois respecter mon père que si mon père se comporte en père. Je ne dois si mon père ne se comporte pas en père, je ne suis pas le fils de mon père.
Mais quels sont les critères? Si les philosophes, il a dû exhiber des critères de la. Je crois même qu'il prononce le mot de justice. Où il y a des vertus, fidélité, confiance, bienséance, sens du juste.
exhibe-t-il des critères comme le font les philosophes?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, je pense, pour répondre à cette question. Il y a bien, en fait, un certain nombre de vertus qui sont dégagées. Mais ces vertus, en fait, sont toutes des vertus relationnelles. C'est-à-dire que quand il parle de justice, c'est-à-dire, on devrait parler plutôt, en fait, du sens de l'adéquation de la conduite aux situations. Donc, ce qui est juste, c'est ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Et la conduite n'est pas reproductible dans toutes les autres situations. Même chose, être humain, c'est se comporter d'une certaine manière face à un interlocuteur qui est toujours changeant.
Donc, ce n'est pas une pensée des principes, c'est une pensée du... Alors, c'est une expression, je crois, d'Han Cheng, sinologue, du comment faire, plus que du quoi faire.
Oui, c'est-à-dire en fait, c'est on peut effectivement dire qu'il n'y a pas en fait de lois ou de règles qui sont dégagées par Confucius dans la conduite. C'est-à-dire que la conduite n'est jamais en fait la vertu telle qu'il la met en avant. Ce n'est jamais en fait un code de conduite. C'est jamais ça ne se traduit jamais par une forme de catéchisme ou de choses qu'on serait obligé de faire.
Exhiber des principes, c'est pas du catéchisme, c'est essayer peut-être par une rationalité de dire comment on distribue les richesses, à quel moment une relation à autrui génère de la souffrance, ou au contraire, quels sont les signes qu'on respecte correctement autrui. Vous voyez, on peut réfléchir à ça sans faire de catéchisme.
De ce point de vue-là, il le fait aussi, hein, puisqu'il considère en fait qu'il y a un certain trait qui permette de juger d'une relation humaine. Ces traits, c'est la bienveillance envers autrui, l'ouverture à autrui, l'accueil sans préjugé d'autrui. Tout cela sont des critères ou des traits qui signalent une conduite bienveillante et une attitude humaine vis-à-vis d'autrui. Donc il y a bien quelques critères, mais ces critères ne sont pas en fait absolument généralisables. Il faut en fait toujours en considérer en fait la situation dans laquelle on est pris pour que l'humanité en tant que vertu, s'exprime de façon singulière, ou pour que le sens de la justice s'exprime de façon singulière.
Avec cette attitude philosophique, Olivier Boutonnet, est-ce qu'il est normal que les disciples se soient affrontés? C'est-à-dire que on a une philosophie de la relation, enfin une relation hiérarchique. Au fond, le seul grand critère et le seul grand principe de ce que j'entends chez Confucius, c'est la hiérarchie. Mais à part ça, tout le reste, il faut le sentir, quoi. Il faut savoir faire. C'est le comment qui compte. N'est-il pas assez naturel que les disciples aient été un peu perdus, voire se soient dirigés sur des chemins très différents?
Si, Léon van der Merch disait de la Chine que c'était pas une civilisation du pourquoi, que c'était une civilisation du comment, précisément. Et toute la difficulté que l'on voit chez les disciples de Confucius, c'est que eux s'attachent à construire leur apprentissage auprès du maître, et donc ils s'accrochent à des notions. Et justement, à chaque fois, Confucius les renvoie à eux-mêmes en leur faisant comprendre que la façon d'habiter le monde doit être en perpétuelle adéquation avec ce monde. Et donc, c'est à chaque fois, ce sont des correspondances dynamiques. Oui. Et donc, bien sûr qu'on a besoin de notions fondamentales dans le rapport à l'autre, etc. Mais la vertu d'humanité, le sens de l'adéquation sont vraiment les principes fondamentaux de tout cela. Mais en même temps, il faut savoir mettre en application ces principes dans la motion du monde. Et alors, ça va se manifester sous plein d'angles différents. Par exemple, des divergences entre disciples peuvent provenir de la pertinence ou non de s'engager au service de la cité.
Oui.
Certains disciples vont estimer qu'il est utile, là, d'accepter une charge officielle, tandis que pour Confucius, pas nécessairement. Il y a un passage assez symbolique dans les entretiens, où Confucius s'émerveille devant une poule faisane qui s'envole lorsque l'un de ses disciples s'approche de cette poule faisane. Shōzai, dit-il, au moment opportun. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a la réflexion de le comportement de cette poule faisane est instructif parce qu'elle nous a enseigné comment, quand il était opportun et juste de rester sur ce pont où elle était perchée, et quand il était opportun de s'envoler. Et donc là, le sage, lui, doit s'en inspirer pour savoir quand il est opportun pour lui d'accepter un poste ou quand il n'est pas opportun d'accepter ce poste.
C'est un bon exemple.
C'est vrai.
Parce qu'évidemment, on peut s'affronter sur le moment opportun. Oui. Et vous diriez que dans le Lunyu, c'est comme ça qu'on prononce les entretiens de Confucius, qui ont été écrits, je crois, autour de 400 avant Jésus-Christ.
Et
c'est pas lui qui les a écrits.
Ça rapporte les propos de ses disciples à première et deuxième génération.
D'accord. Et ce sont, il y a 20 chapitres quand même, avec des dialogues, brefs, des citations. Il y a effectivement, alors pour le dire un peu prosaïquement, à boire et à manger. C'est-à-dire, on peut tout trouver dans Confucius, y compris des choses éventuellement contradictoires.
Oui. C'est pour ça que quand on travaille sur les textes anciens, il faut consacrer beaucoup de temps aussi à lire les gloses. Pour justement essayer.
Mais on est encore chez les disciples avec les gloses.
Ou chez des commentateurs plus tardifs, mais qui parfois peuvent apporter des éclaircissements intéressants. Mais oui, bien sûr. Après, il y a quand même des lignes structurantes qu'on retrouve sur l'ensemble des entretiens.
Alors, nous, dans notre équipe, on a choisi un sujet sur lequel le disciple du 4e siècle avant Jésus-Christ, Mencius, et le disciple du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle Sun Tzu, se sont affrontés. Ils disent même exactement le contraire, l'un et l'autre, tout en se réclamant les deux de Confucius. Je vous propose d'écouter, donc le sujet en question, c'est « La nature humaine est-elle bonne ou est-elle mauvaise ?» Mencius soutient qu'elle est bonne.
Tous les hommes ont le cœur tel qu'ils compatissent avec autrui. Les anciens rois avaient le cœur compatissant, et par suite leur gouvernement était caractérisé par la compassion. Avec des cœurs compatissants et un gouvernement de compassion, l'univers s'ordonnait aussi facilement qu'on l'eût fait tourner sur la paume de la main. Voici pourquoi l'on peut dire que tous les hommes ont le cœur tel qu'ils compatissent avec autrui. Si un homme aperçoit soudain un enfant sur le point de tomber dans un puits, quel qu'il soit, il éprouvera au cœur une pénible frayeur. Et cela non pas parce que les parents de l'enfant seraient de ses relations, ni parce qu'il voudrait se faire une réputation dans son entourage, ni parce qu'il trouverait odieux les cris de l'enfant. Il est clair par là que celui qui n'a pas le cœur sensible n'est pas un homme. Que celui qui n'a pas le cœur délicat n'est pas un homme. Que celui qui n'a pas le cœur de s'effacer n'est pas un homme. Que celui qui n'a pas au cœur le sentiment de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas n'est pas un homme.
Donc un véritable homme semble avoir des sentiments bons en lui. Ce n'est pas exactement ce que dit Sun Tzu environ un siècle après, autre disciple de Confucius. Écoutez.
L'homme est par nature mauvais. Ce qu'il a de bon lui vient d'acquis artificiels. Or, la nature de l'homme est ainsi faite que, dès sa naissance, il aime son propre intérêt. S'il ne fait que le suivre, l'agressivité et la brutalité croissent en lui, la politesse et la civilité disparaissent. Dès sa naissance, il a en lui jalousie et haine. S'il ne fait que leur obéir, la violence et la malignité croissent en lui, la loyauté et la confiance disparaissent. Dès sa naissance, il a en lui des désirs suscités par son ouïe et sa vue et par l'amour des sons et des couleurs. S'il ne fait que s'y conformer, la débauche et le trouble croissent en lui, les rites et les devoirs, la culture et le respect du principe disparaissent. Ainsi, quand il suit sa nature et se conforme à ses sentiments, chaque homme exprime nécessairement son agressivité et sa brutalité. Il participe aux transgressions des différenciations sociales et au trouble du principe qui gouverne les choses. Il tend vers la cruauté. C'est pourquoi il doit nécessairement se transformer sous l'influence d'un maître et d'un modèle, pour emprunter la voie des rites et des devoirs. Il peut alors exprimer sa politesse et sa civilité, et participer à la culture et au respect du principe. Ainsi, il tend vers le bon ordre. À partir de cette observation, il est tout à fait clair que la nature de l'homme est mauvaise et que ce qu'il a de bon en lui ne vient que d'acquis artificiels. Dès lors qu'il a observé les rites et les devoirs, il est dans le bon ordre des choses. Mais si un homme n'a ni maître ni modèle, il fait preuve de partialité, tombe dans l'erreur sans jamais pouvoir se corriger. S'il n'observe ni les rites ni les devoirs, il s'oppose à l'autorité, fomente des troubles et contrevient au bon ordre des choses.
Alors Stéphane Feuillat, expliquez-nous, que disait Confucius ? L'homme est-il naturellement bon ou naturellement mauvais ? Faut-il qu'il mate toutes ces choses mauvaises qu'il a en lui ou faut-il au contraire qu'il laisse exprimer son fond de nature, si j'ose dire, qui est bon ?
Alors en fait, il est assez difficile de répondre à cette question puisque dans les entretiens, donc le Louis Hu, qui rapporte ses propos, il n'y a qu'un texte véritablement qui parle de la nature humaine, de manière très brève, où Confucius dit « Tous les hommes sont semblables par leur nature, mais ils diffèrent par leur pratique ». C'est la seule chose qu'il dit.
Et une nouvelle fois, c'est un problème de... qui relève du comment plus que du quoi.
Voilà, plus que du comment que du pourquoi, où il n'y a pas d'explicitation véritablement de ce que c'est ici clairement la nature humaine. Il ne se prononce pas sur cette question de savoir si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Il dit tout simplement que par nature, c'est-à-dire dans leur disposition innée, tous les hommes sont semblables.
Alors des disciples corrects auraient dû dire ce que vous venez de dire, au lieu de s'affronter sur un sujet, la nature humaine, qui n'est pas un sujet de Confucius.
Non, à proprement parler, effectivement, si les disciples avaient suivi la pensée de Confucius, ils n'auraient pas pris pour ce thème, ne serait pas devenu aussi important dans le confucianisme extérieur.
Alors, sont-ils stratèges ? Ont-ils d'autres enjeux ?
Non, je pense en fait que le confucianisme, et ça c'est une des choses qui est finalement assez avérée, est une pensée qui se construit d'une manière assez particulière, puisqu'elle se considère toujours comme au centre, entre des positions opposées. Et la question de la nature humaine, en fait, elle va émerger à un moment très particulier de l'histoire, qui est le 4e siècle avant Jésus-Christ, précisément à un moment où la vie est en danger. C'est-à-dire, le terme que l'on traduit par « nature humaine », en fait, est un terme qu'il faudrait peut-être mieux traduire par « disposition innée », à vivre, puisque le caractère qui désigne la nature humaine a le même composant qu'un autre caractère chinois qui signifie vivre ou naître. Donc le premier sens de ce mot, nature humaine ou xing en chinois, c'est tout simplement en fait les dispositions innées à vivre ou à préserver sa vie. Et dans l'histoire de la pensée chinoise, cette notion-là, en fait, est définie de cette façon-là, et sans qu'elle soit liée à la question du bien ou du mal. Et Mencius, en fait, intervient au IVe siècle en se disant « Non, non, on ne peut pas penser la nature humaine sans, en fait, faire intervenir, en fait, la question du bien ou du mal. »
Donc et il prolonge en ajoutant des questions de...
Voilà, il prolonge en ajoutant et il s'oppose d'abord très fermement à d'autres conceptions qui ne sont pas confucéennes, que oui. Confucius n'aurait pas du tout évoquées, de la nature humaine.
Alors, celui que j'avais en tête quand j'ai dit « certains sont peut-être stratèges », c'est l'autre, c'est Sun Tzu, parce que si j'ai bien compris ce que j'ai lu, mais bon, j'y connais rien moi, hein, je prépare du mieux que je peux cette émission, mais vous semblez tous dire, les spécialistes, que d'ailleurs on le sent dans le texte, il voulait éviter les troubles, un peuple toujours plus discipliné, et il donnait des conseils aux princes, qui étaient des conseils d'autorité, de fermeté, etc. Il a politisé Confucius ? Encore plus ?
Alors, sans doute encore plus. Il intervient à une époque qui est un siècle après Mencius. Et donc, en fait, il est en débat avec d'autres pensées que Mencius n'a pas véritablement connues. Et dans ces pensées-là, la pensée avec laquelle il est en débat, c'est une pensée qu'on appelle légiste, qui préconise en fait une forme d'autoritarisme d'État, et même on peut dire que le légisme c'est la théorisation de la dictature en fait en Chine ancienne, et qui met en avant la loi comme moyen unique de gouverner les hommes. Et Mencius, Sun Tzu, lui, va réagir contre cette idée de loi pour essayer de reconstruire en fait une société autour du rite, et donc, en fait, véritablement autour de la pensée confucéenne. Et il produit, en fait, une philosophie confucéenne politique. Donc, ce qui l'intéresse, c'est la dimension sociale qui existe dans le confucianisme, alors que Mencius, lui, s'intéressait à la dimension intérieure, en fait, du confucianisme pour chaque individu, comment on devient, en fait, meilleur.
Alors, donc, oui, voilà. Pardon, je voulais pas vous interrompre.
Non, je vous en prie.
Donc, s'il y a une dimension sociale qui a été explorée peut-être plus encore par certains disciples, bon, bah, il y a de la hiérarchie, il y a une nécessité de discipline. Donc, mettons les pieds dans le plat, Olivier Boutonnet. Le confucianisme est-il assez tôt, après la mort de Confucius, perçu, et c'est difficile de faire autrement, comme une philosophie autoritaire au service de rois qui veulent l'ordre?
Alors, qui veulent l'ordre, oui, une philosophie au service de l'ordre aussi, mais autoritaire, c'est quand même pas le confucianisme qui a plus prêté le flanc à ça. Le légisme, beaucoup plus, par exemple. Et d'ailleurs, un des paradoxes, c'est que parmi les grandes figures du légisme, on a des disciples de Xunzi. Et le légisme, lui, effectivement... Tandis que Han Cheng, que vous citiez tout à l'heure, dans son livre « Histoire de la pensée chinoise », à propos du confucianisme, elle dit « le pari sur l'homme ». C'est comme ça qu'elle le résume, c'est une phrase très juste, alors que le légisme, au contraire, va partir du principe que l'homme est par nature mauvais, et qu'il est à la fois vil, pleutre et intéressé, et qu'à partir de là, on ne peut le réguler qu'à l'aide de deux outils majeurs que sont le châtiment et la récompense. Et donc c'est vraiment le légisme qui va permettre la dictature, et le certains textes du taoïsme aussi, contrairement à l'image un peu romantique qu'on peut en avoir. Mais le confucianisme, sans doute moins quand même.
Bon, et alors, est-ce que vous diriez qu'aux sources de la pensée taoïste, vous m'avez dit tout à l'heure que oui, il y a des textes sans doute qu'après coup on a rattachés au taoïsme, qui ne se donnaient pas comme tels au départ, des textes anciens du 4e siècle avant Jésus-Christ, il y a d'autres textes comme ça d'une période juste avant notre ère, est-ce que c'est une réaction, disons, à, oui, je continue de le dire avec des mots d'occidental, je suis désolée, mais quelque chose d'un peu autoritaire, malgré tout, peut-être pas chez Confucius, mais dans l'usage de Confucius.
Dans l'usage de Confucius, et ça c'est d'actualité aujourd'hui, la manière dont la Chine contemporaine, le pouvoir politique se réapproprie Confucius, effectivement, à la fois pour vendre une société harmonieuse, et qui est un outil de propagande, et aussi effectivement c'est un formidable outil de régulation sociale, puisque chacun doit rester à sa place et ne pas en sortir. Donc de ce point de vue-là, effectivement. Et bien sûr que certains élans qualifiés de taoïstes sont aussi en réaction. Le premier chapitre des entretiens s'ouvre sur une phrase: étudier et en temps opportun mettre en application l'objet de son apprentissage, de son étude. Et il se trouve que dans le Laozi, qui est un texte emblématique du taoïsme, on trouve un chapitre qui commence par apprendre à ne pas apprendre ou apprendre à désapprendre. Et là, on voit bien qu'on est dans une réaction.
Une réaction. Donc peut-être y a-t-il assez tôt l'envie d'une autre voie, voire une voie opposée.
Assurément, il y avait plusieurs courants, effectivement, qui se confrontaient, qui se complétaient. C'était une période très intense, oui.
Pendant le pèlerinage, que la porte centrale est ouverte par laquelle entrent les associations. Sinon, on n'en rentre que par les portes latérales.
Donc avant de rentrer dans la cour du temple, on passe dans une entrée où il y a les gardiens.
Ça, ce sont deux divinités qui sont les gardiens, oui, du temple, et qu'on appelle le tigre blanc et le dragon vert, Xinglong Baihu. Et alors ici, on identifie ces deux gardiens qui correspondent à des directions, l'est et l'ouest. On les identifie à deux autres divinités qu'on appelle Huo et Re. Ce sont des divinités qui sont très importantes dans le domaine de la géomancie pour maintenir les influences fastes et néfastes en équilibre. Devant chaque divinité, il doit y avoir un brûle-parfum. Oui. C'est l'hommage qu'on fait à chacune de ces divinités. Ça, c'est cet hôtel-là, c'est l'hôtel de Caishun, le dieu de la richesse. On a accroché des fupai, ces plaques de vœux, pour Caishun. Alors, il y en a qui ont demandé telle ou telle chose. Ils ont écrit sur leur plaquette rouge le vœu qu'ils veulent faire, ou bien simplement leur nom. On brûle de l'encens, et ensuite, on va s'agenouiller devant la divinité. Voilà. Et on fait trois prosternations.
Vous venez d'entendre une archive où s'exprimait Vincent Gossart, historien du taoïsme, une archive de la Matinée des Autres sur France Culture en 2000 qui nous fait entendre un rituel taoïste donc dans le monde contemporain. Ma question, avec toutes ces nouvelles divinités, le tigre blanc, etc. Enfin, c'est peut-être pas nouvelle, mais là même, vous m'expliquerez, Olivier Boutonnet. Mais pour se rattacher à la discussion que nous venons d'avoir, y a-t-il dans le taoïsme une envie de contemplation, un retrait intérieur de l'individu, par opposition à ce qui, en tout cas, est retenu beaucoup du confucianisme, c'est-à-dire une volonté un peu ordonnatrice du monde humain? Est-ce que c'est une réaction à cet aspect du confucianisme?
En partie, oui, mais pas que.
Oui.
En partie, oui, bien sûr. Et il faut comprendre aussi que taoïsme et confucianisme ont énormément dialogué au fil de l'histoire. Pour des raisons historiques, en fait... Au début de notre ère, nous avions les lettrés chinois qui ont construit, notamment sous les Han, l'orthodoxie avec le canon confucéen, voyaient un modèle centralisé autour du souverain en tant que fils du ciel, parfaitement stable et harmonieux. Et à partir du IIIe siècle, les périodes se sont troublées, il y a eu des invasions barbares venues du nord, et donc ce modèle idéal s'est effondré. Et toute cette élite lettrée, petit à petit, a dû aussi changer ses modèles, ses repères, chercher d'autres choses, se tourner un peu plus vers l'homme intérieur. Et donc, on va avoir beaucoup de ces lettrés qui vont s'intéresser davantage au bouddhisme, au taoïsme, et on va avoir, à partir des six dynasties, cette période troublée, une nouvelle sociologie, de nouveaux profils de grands lettrés taoïstes qui vont émerger. Et donc, ces gens-là ne sont pas que taoïstes, ne sont pas que confucéens. Ce sont des lettrés, donc, héritiers de la tradition lettrée,
oui,
qu'on appelle par commodité confucianisme, mais aussi de grands taoïstes. Et donc, on voit bien qu'il va bien falloir concilier tous ces courants de pensée. Et donc, c'est pas une opposition frontale, jamais.
La conciliation est possible ou bien en
France? Oui, bien sûr, la conciliation est possible.
Ça paraît un peu
et d'ailleurs, la bureaucratie céleste dans le taoïsme est fondée sur la bureaucratie terrestre et l'inspire aussi parfois. Donc on a toute une économie administrative dans le panthéon taoïste, par exemple.
Stéphane Feuillat.
Oui, je voulais juste revenir sur cette idée en fait qui associe en fait confucianisme et autoritarisme en fait. Il me semble que c'est plus compliqué. Il y a effectivement, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, une utilisation idéologique du confucianisme. Mais Confucius dit en fait que la hiérarchie est au cœur en fait de la pensée confucéenne. Donc il y a toujours un supérieur et un inférieur. Mais il dit toujours en fait que le père se comporte en père, que le fils se comporte en fils, que le prince se comporte en prince, que le sujet se comporte en sujet. Autrement dit, chacun a des droits et des devoirs. Donc si le prince ne se comporte pas en prince, ce n'est plus mon prince. Et c'est dans le confucianisme quand même, et chez des gens comme Mencius, qu'apparaît pour la première fois la justification du tyrannicide quand même. Donc la mise à mort du souverain, c'est dans le confucianisme.
C'est tout le problème du néo-confucianisme qui va se développer à un moment un peu plus tardif du Moyen-Âge, enfin ce que nous appelons Moyen-Âge, notamment la dynastie Song, où là vraiment... On va raconter ce qu'on veut à partir du confucianisme, c'est ça?
Alors, en fait, le néo-confucianisme se présente en fait comme une sorte de relecture nouvelle du confucianisme ancien, qui intègre la pensée taoïste et la pensée bouddhique. Les néo-confucéens du XIe siècle se rendent compte qu'ils sont assez mal équipés pour penser en fait le monde et la nature, donc ils vont emprunter aux taoïstes un certain nombre de conceptions.
Donc l'intériorité, le...
Alors, pour le taoïsme,
quoi,
plutôt en fait la conception de la transformation. Qu'est-ce que c'est que la voie, le cours des choses, la voie, comment la penser?
Bon, ça, on va en reparler parce que c'est...
Et là, et donc, ils vont emprunter au taoïsme un certain nombre de conceptions. Et puis, ils sont démunis aussi, les néo-confucéens ou les confucéens sont démunis sur un autre plan, qui est le plan de la conscience. Comment penser en fait l'esprit ou la conscience individuelle. Et donc là, ils vont emprunter en fait beaucoup au bouddhisme, qui a considérablement développé en fait dans la tradition chinoise cette dimension-là. Et ils vont faire une sorte de mixte entre le confucianisme ancien, le taoïsme et les éléments qui leur paraissent justes dans le taoïsme et les éléments qui leur paraissent pertinents et justes dans le bouddhisme. Mais ils disent... Il relise à partir de ça tout le confucianisme ancien. Le confucianisme ancien. Et en fait, il se conçoive comme un prolongement, en fait, de, et une explicitation de ce qui peut paraître dans le confucianisme ancien encore très implicite. Donc,
alors, j'ai besoin d'être éclairé sur ce, sur le taoïsme, Olivier Boutonnet. Qu'est-ce que c'est la voix? La voix, c'est Tao, c'est ça?
Oui, la voix, c'est Tao. C'est un Tao. Eh bien, alors, à l'origine, alors, en chinois classique, un même sinogramme est porteur de plein de sens, et même sur le plan syntaxique, de plein de fonctions, mais disons que la voix, c'est à la fois le chemin, donc la voix, VOIE, mais on pourrait dire que c'est aussi la voix VOIX, puisque cela signifie également énoncer, dire, parler. À l'époque antique, la voix et la vertu, le Tao Te, et même le Tao tout seul, désignaient le contenu philosophique d'une école. Et parmi les critères qui ont probablement servi aux historiographes, justement, dans la classification des écoles de pensée, on s'est interrogé pourquoi avoir mis dans l'école de la voix, la catégorie école de la voix, des textes qui semblent contradictoires en matière de philosophie politique, par exemple, entre le Lao Tzu qui peut justifier un état totalitaire et le Zhuangzi qui, lui, aurait plutôt des tendances anarchiques. Bon. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on va trouver ces textes opposés sur des points fondamentaux dans une même catégorie? Parmi les critères retenus, il y avait précisément le nouveau sens donné à ce sinogramme de la voix, où dans ces textes-là, la voix n'est plus simplement le contenu philosophique d'une école, mais prend un sens beaucoup plus vaste, peut-être métaphysique, où ça devient le cours naturel des choses, l'absolu. Ou pour reprendre une catégorie qui vous est peut-être plus familière, ce serait la substance chez Spinoza.
Mutatis mutandis. Ce que j'ai un peu de mal à comprendre, en fait, c'est... Il y a aussi un rapport vraiment à la nature, semble-t-il, oui. Dans Taoïsme, qui est moins net. Puis c'était une de nos premières remarques, enfin une de mes premières questions à Stéphane Feuillet, assez moins net chez Confucius. Et puis, il y a ce concept-là, j'aimerais bien que vous m'éclairiez, du non-agir, Wu Wei, c'est ça?
Oui, Wu Wei.
Alors on se dit, voilà, c'est quand même l'opposé, là, du confucianisme,
qui est
de se comporter, vous venez de nous le dire, correctement, d'agir dans la société et pas dans la nature. Donc il y a quand même quelque chose qui semble contradictoire entre les deux, volontairement.
Si on réduit le confucianisme, on peut le voir comme une opposition au Wu-Wei, mais en fait pas vraiment.
Mais expliquez-nous ce que
c'est. Le Wu-Wei, c'est donc ne pas avoir l'action de faire, hein, donc le nom qu'on traduit par le non-agir. Ça consiste en fait à se mettre en accord avec le cours naturel des choses et à ne pas forcer la nature des êtres, des phénomènes et des événements. Et en fait, c'est le principe même de l'intelligence situationnelle. D'être en harmonie avec le cours des choses et avec vous-même.
L'opportunité dont on parle.
Oui, au sens positif du terme, au sens laudatif du terme. À partir de là, votre action sera parfaitement accordée à la situation et elle sera pleinement efficiente. Et alors que si vous agissez précisément, c'est-à-dire que vous allez forcer la nature des êtres, des événements. Et donc, savoir rester à sa place, que le souverain se conduise en souverain, que le sujet se conduise en sujet, d'une certaine façon, c'est aussi, ça pourrait être une variation du non-agir. D'ailleurs, un taoïste des Tang du 8e siècle, Yun, qui était un grand lettré, donc pétri de confucianisme, donne une définition intéressante du non-agir, puisque il apporte une composante supplémentaire. Le non-agir, ce serait donc une raison intuitive, une imperception au monde, mais celle-ci ne peut pas être simplement intuitive, elle doit être imprégnée d'observation et de réflexion. Et donc, elle est à la croisée, justement, de cette raison intuitive, mais elle procède aussi d'une intelligence, d'une observation. Et ça permet, ensuite, d'être pleinement en accord avec la situation, avec ce que nous sommes personnellement aussi, parce qu'il y a toujours cette respiration entre l'accord avec la situation, le cours des choses, mais aussi ce que l'on est soi-même. Et donc, puisque l'action par le non-agir va être pleinement accordée en harmonie avec la situation, alors elle pourra atteindre son objectif parfaitement. Et donc, le non-agir, c'est l'action absolue, de ce point de vue.
C'est-à-dire, c'est parfaitement compatible avec le confucianisme, si je vous comprends bien, au sens où le confucianisme...
Dans la Chine médiévale, les lettrés taoïstes étaient parfois embarrassés, parce qu'à certains égards, ils remettaient en cause les notions cardinales du confucianisme, et à bien les lire, ils rajoutaient toujours un qualificatif en disant, par exemple, le sens du juste suprême, lui, c'est bien, par exemple. Mais c'est souvent que le sens du juste tout court a été mal compris. Donc il n'y a pas d'opposition frontale.
Donc se comporter bien au sens du confucianisme, Stéphane Feuillat, c'est agir dans une certaine mesure conformément au rôle qu'on a dans la hiérarchie des êtres, et ne pas agir, donc le non-agir, au-delà. Donc c'est compatible avec le principe taoïste du non-agir, c'est ça ?
Oui, on pourrait dire de cette manière-là. Les choses sont bien sûr très compliquées dans l'histoire chinoise, mais le terme de non-agir apparaît dans les entretiens de Confucius.
Ah bon ?
C'est dans le tout dernier chapitre, le terme apparaît déjà.
Donc c'est quand même une figure très syncrétique. Oui, en tout cas, l'héritage de Confucius, on peut le marier à plein de choses.
À plein de choses. Et puis les oppositions que l'on a tendance à faire, elles ne sont pas si strictes que dans peut-être la philosophie occidentale. La philosophie chinoise est très éclectique, donc elle prend, au sens que Diderot donnait à ce terme d'éclectisme, elle prend un peu à droite et à gauche, et elle ne cesse en fait de revenir sur les mêmes motifs pour les repenser. Juste pour le non-agir,
oui.
Le non-agir est en fait lié à une conception de la voie. La voie, qu'est-ce que c'est ? C'est le cours des choses. Comment se produisent les choses ? Comment les choses accèdent-elles à l'existence ? Eh bien, dans la conception chinoise de la voie, elle passe par elle commence dans l'invisible, elles deviennent visibles, et une fois qu'elles ont atteint leur développement maximal, elles retournent à l'invisible. Or, le non-agir, c'est quoi ? C'est une intervention sur ce qui n'est pas encore advenu comme visible. Les choses, une fois qu'elles sont visibles, elles sont fixées. Une table est une table, je peux pas la changer, je ne peux que la contourner. En revanche, dans l'invisible, les choses ont un cours qui n'est pas encore totalement déterminé, et à ce moment-là, je peux intervenir pour essayer de réorienter le cours des choses quand il va, dans la conduite humaine, dans un mauvais sens. Donc en fait, le non-agir, c'est pas le contraire de l'action, c'est une intervention à un niveau spécifique, qui est le moment où les choses ne se sont pas encore véritablement figées, réifiées, concrétisées. En revanche, si vous intervenez au moment où les choses sont figées, il n'y a plus rien à faire.
Alors pour finir, on va parler d'une notion dont j'ai aussi l'impression qu'elle est assez transversale. Mais là, je comprends pas bien, il faut vraiment que vous m'expliquiez. Le qi, c'est comme ça qu'on prononce ?
Le qi.
Le qi. Le qi est, à travers ce problème, aussi la question du yin et du yang, souvent connue des Occidentaux, mais peut-être mal comprise. Écoutez cette archive.
Le qi, c'est pour nous, c'est vraiment une matière vivante dans notre corps et dans notre comportement. Vous savez, le qi, c'est ce qui nourrit le corps, nourrit l'esprit. C'est la réalisation et concrétisation de notre corps, pour moi. L'énergie, c'est quelque chose qui est en mouvement, mais qui est en train de se réaliser, concrétiser quelque chose. Quand le corps physique rejoint le corps spirituel, il a des choses qui se manifestent au-delà des systèmes mécaniques, systèmes de... Et là, c'est dans le côté pratique du Qigong, le Tai Chi, ça, on l'appelle une énergie. Un mouvement très joli de danse, ou bien un mouvement très très joli de Qigong. On va voir tout de suite la différence. Donc le corps est bougé dans certaines logiques, certains principes, mais qui n'ont rien à voir avec la musculation, rien à voir avec les systèmes, différents systèmes du corps. C'est beaucoup des images de la nature qui entrent dans notre corps. Et à certains moments, j'étais à ce moment-là, on peut considérer l'énergie, c'est quand l'être humain, il retourne dans son état original, on peut dire, comme un enfant qui est juste conçu, qu'il n'a pas aucun souci, et puis il est dans cette joie du corps qui s'est manifesté comme une partie de la nature. On a l'impression que la nature entre dans notre corps dans la nature.
Cette dame s'appelle Kei Wen, elle a fait des études en médecine chinoise. Et elle nous parle donc du qi dans cette archive de France Culture du 7 avril 2001. Je vous écoute. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais... Qu'est-ce que c'est que le qi ? Et surtout, est-ce que j'ai tort de suggérer que par là, on peut retrouver la question du yin et du yang ? Il m'avait semblé, mais peut-être que je fais une erreur.
Non, pas du tout. Vous avez entièrement raison. En fait, le souffle ou le qi ou l'énergie, en fait, se pense en termes de yin et de yang. Cette notion est une notion, en fait, qui est... émerge aux alentours du 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc elle n'est pas si ancienne que ça, elle est moins ancienne que la pensée de Confucius, par exemple. Et en fait, à partir du moment où les Chinois commencent à réfléchir en fait à l'ordre naturel, qu'il commence à faire émerger cette notion de souffle. Alors le souffle, c'est quoi? C'est vraiment difficile à expliquer en quelques termes. Mais c'est pas de la matière.
Oui.
Puisque effectivement c'est fluide, hein. Mais c'est ce qui structure l'univers tout entier. C'est-à-dire tout est souffle. Mais souffle a des degrés de concrétion différents.
Oui.
La table, c'est un souffle lourd. Mais c'est du souffle. La parole que j'exprime, c'est un souffle plus fluide. Ça reste configurable quand même en tant que parole. Et puis, les pensées que j'exprime en moi-même, sans les dire, sont aussi du souffle. Et au fond, le souffle doit être pensé en fait de manière scalaire, en fait, comme s'il y avait plusieurs échelles du souffle qui va du plus lourd au plus léger.
Et ça se contrôle.
Et ça s'en contrôle et ça s'entretient. Si je m'analyse comme les Chinois le font en termes de souffle, je dirais voilà, je suis constitué de différents souffles. Les os sont des souffles durs. Le sang est un souffle plus fluide. La parole est encore plus fluide que le sang. Et la pensée est encore plus fluide. Et si ma pensée est de plus en plus fluide, si mes souffles sont de plus en plus fluides, eh bien, je rejoins le souffle de la nature qui est invisible.
Le yin et le yang, là-dedans?
Alors, le yin et le yang, c'est une façon, en fait, de spécifier, en fait, le souffle. Les souffles lourds vont être considérés comme plus yin. Les souffles yang vont être considérés comme plus fluides, plus légers.
Oui.
Et donc, mais en fait, il y a toujours du yin dans du yang, il y a toujours du yang dans du yin. Donc c'est une façon de penser la complémentarité, l'opposition.
Je vous laisse le dernier mot, je suis désolée, on est presque au bout, Olivier Bouton,
si vous voulez.
Et puis surtout, est-ce que ça traverse taoïsme, confucianisme?
Oui.
C'est transversal,
oui.
Ce genre de...
Oui, c'est transversal, c'est-à-dire qu'on souvent on lit que le yin et le yang, c'est le taoïsme, pas du tout, ça dépasse le taoïsme, ça précède le taoïsme, ça le dépasse. Alors, dans le schéma cosmogonique le plus répandu, on part d'un chaos primordial, un souffle primordial qui va se scinder en une dyade primordiale également, le pur yang qui va donner naissance au ciel, le pur yin qui va donner naissance à la terre, et puis par le principe la tension dynamique, ces deux vont se mélanger et donner naissance à la myriade des êtres. Donc nous sommes tous habités effectivement de souffle. Le yin et le yang, c'est intéressant aussi de comprendre que le yin, c'est la partie ombragée de la montagne, c'est l'ubac. Le yang, c'est la partie ensoleillée de la montagne, c'est l'adré. Le yin et le yang ne répondent pas à une seule acception. Ils dépendent de concepts d'emploi. Par exemple, les taoïstes vont chercher à devenir des êtres de pur yang. Mais pour devenir être de pur yang, il faut aussi cultiver des mérites yin. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y a toujours un contexte d'emploi yin-yang à avoir en compte pour pouvoir bien comprendre le sens de ces concepts.
Alors, j'ai une dernière question, finalement. Est-ce que le communisme a tout envoyé voler de ce dont vous m'avez parlé ce matin, ou au contraire, s'en sert-il en Chine?
Il y a eu plusieurs phases, mais avant les communistes, ce qu'on accable qu'eux, il y a aussi les grands réformateurs du début du XXe siècle qui ont aussi été responsables de nombreuses pertes du patrimoine immatériel, de ces données-là, faisant déjà la chasse aux superstitions. Évidemment, les communistes vont prendre la suite. Donc, il y a eu différentes périodes, mais les cinq grandes religions autorisées en Chine, dont le taoïsme, encadré par une association, sont évidemment utilisées par le pouvoir politique, avec le souci de bien séparer ce qui est orthodoxe de ce qui est...
Derrière la même chose, Stéphane.
Oui, en fait, je dirais que je prendrais la question un peu différemment et je me demanderais pourquoi, en fait, le communisme s'est si bien acclimaté en Chine.
Ça, c'est une vaste... Peut-être qu'il faudra qu'on fasse une émission parce que malheureusement, le temps est écoulé.
Parce qu'il y a une pensée de l'opposition et de la contradiction en Chine, ancienne, et c'est sur ce fond-là que le communisme peut penser la contradiction ou ajoute une couche par rapport à ça.
Et la totalité. Et c'est là le paradoxe qui est passionnant.
Bon, ben ça nous prépare peut-être d'autres émissions passionnantes. Merci beaucoup à tous les deux. Olivier Boutonnat et Stéphane Feuillat. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'interroge sur le pouvoir de la règle. Voici le pourquoi du comment.
Comment procède la régulation ? Dans un petit article méconnu et fondamental, Georges Canguilhem, philosophe de la vie, donne peut-être la clé d'un problème aussi ancien que la philosophie, qui est celui de la source et de l'origine, du fondement en quelque sorte, de la régulation dans nos vies, de la légitimité des règles pour régler nos vies et échapper à cette ambivalence, cette antinomie de la règle qui d'un côté voudrait trouver son fondement dans la chose elle-même, la chose que l'on mesure, comportant en quelque sorte une objectivité intrinsèque, ou bien l'instrument extérieur de la règle qui, comme l'objet avec lequel on tape sur les doigts, aurait quelque chose d'artificiel et de dominateur. Dans ce petit article extraordinaire intitulé « Le problème des régulations dans l'organisme et la société », Canguilhem, philosophe de la vie, montre en effet que la source de la règle n'est pas dans n'importe quels objets. Si vous mesurez la taille d'une table ou même la taille d'un être humain de l'extérieur, vous n'y trouverez pas en effet un fondement pour dire il est dans la règle ou il n'y est pas. Vous direz par exemple il ou elle fait 1m70, comment savoir si c'est une taille petite ou grande, acceptable ou refusable pour tel ou tel métier par exemple. On pourrait imaginer que cette règle permette d'accéder à telle ou telle fonction ou au contraire empêche d'y être, et parfois ce sera la source aussi d'une discrimination et d'une violence. Canguilhem montre que la source de la règle se trouve dans l'organisme vivant. L'organisme vivant, c'est justement cet être mystérieux, il dit tout à fait exceptionnel, en ceci qu'entre son existence et son idéal, entre son existence et sa règle, il n'y a pas de différence. Un organisme est un tout qui s'auto-régule. On appelle ça aussi l'homéostasie, l'homéostase, c'est-à-dire par exemple notre température. La température, ce n'est pas seulement ce que mesure un thermomètre extérieur. C'est la manière dont un corps, et même par exemple la planète aujourd'hui, s'autorégule dans son ensemble, et son excès ou son défaut de chaleur va causer parfois, dans différentes mesures justement, des dangers mortels. Et la vie est en quelque sorte autorégulée entre un défaut ou un excès de température, de nourriture, de soins aussi, d'amour peut-être, de telle sorte que l'autorégulation du vivant est le modèle de toutes les règles possibles. Pourtant, dans cet article, Canguilhem est extraordinaire non seulement une fois, mais deux fois. Il montre en effet que la régulation sociale n'est pas immédiatement comparable à la régulation d'un organisme individuel. Une société ne s'auto-régule pas comme un corps individuel. La justice d'une société n'est pas exactement comme la température d'un organisme. Il y a besoin de régulation dans une société, mais les humains doivent inventer des artifices, des techniques de régulation sociale pour compléter le défaut de régulation vitale et collective, ce défaut heureux qui donne lieu à l'invention institutionnelle. L'institution de la règle collective est vitale dans sa fonction, car sans régulation, les humains vont aussi dans les excès ou les défauts de leur technique ou les excès de leur guerre. Et il faut des régulations pour répondre aux mêmes urgences vitales que dans l'autorégulation d'un organisme singulier. Mais cette régulation collective va passer par des techniques ouvertes, parfois dangereuses. Comment réguler les sociétés en s'inspirant du vivant sans se régler sur lui non plus totalement? C'est tout le problème d'une régulation politique juste qui est au cœur aujourd'hui du monde.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique François Saint-Jour. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, y compris Antoine Ravon. Donc merci à tout le monde, Anna Felpin, Philippine de Bélois, Chaïma Giboire, Armance Bourquin et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.